Une petite explication par rapport aux feuilles de route que vous avez. Donc, je vous ai donné les titres, donc le parcours, et énormément de références bibliques. Il ne s'agit pas, je n'y arriverai pas moi-même, d'essayer de voir pendant que je parle toutes les références bibliques. C'est juste pas possible. Je les ai mises pour vous éviter. Enfin, pour m'éviter à moi de devoir chaque fois toutes les données, parce que c'est assez fastidieux quand on le dit, et pour vous éviter à vous de devoir chaque fois les écrire aussi.
Mmh, oui.
Et alors vous pouvez revenir après, si vous désirez, vous avez un peu les références sur lesquelles je m'appuie. Donc voilà. Et aujourd'hui, je n'ai même pas mis toutes les références parce qu'il y en avait trop. Mais je l'ai fait comme ça parce que chaque fois que je lis quelque chose, j'essaye de mettre dans le texte en tout cas et puis de l'appuyer sur tel ou tel verset de l'écriture que je mentionne du coup. Si vous reprenez les références, vous allez probablement pouvoir redire la même chose que moi. Parce que je fais que tirer l'écriture. Donc, voilà. Alors, nous poursuivons aujourd'hui avec les synoptiques. Et puis, je parlerai de l'évangile de Jean. Et je commencerai déjà Paul, même si ce n'était pas indiqué dans le programme. Parce que Paul dit énormément de choses. Donc, j'aurai beaucoup besoin de pas mal de temps. Et j'ai voulu aussi réserver pour la prochaine fois un passage à l'Apocalypse. Voilà. Donc, dans la synoptique, la fin du monde, nous avons vu qu'il y a l'idée de jugement, on trouve aussi l'idée de fin, 5 fois l'expression fin du monde. Particulièrement intéressantes sont les paraboles du bon grain et de l'ivraie, et puis celle du filet. Et chaque fois, ces paraboles sont expliquées. Jésus souligne plusieurs choses par là, la souveraineté de Dieu, surtout les événements de la fin, et puis la nécessité de parvenir à une maturité. Donc, la moisson et le tri du filet symbolisent la fin du monde, et donc correspondent à son jugement. Ceux-ci sont comme un ramassage opéré par les anges, envoyés par le Fils de l'homme. Le bon grain et les bonnes choses sont les sujets du royaume et les justes. Et l'ivraie et ce qui dans le filet ne vaut rien, eh bien, ce sont les mauvais et les méchants. Ce sont les thèmes qu'il utilise. Vous voyez bien, quand je dis tout cela, je ne suis pas en train d'expliquer les choses. Je fais comme une collection de ce qu'il y a. Après, ce sera la tâche de la théologie d'essayer de mettre les choses ensemble. Je fais une petite parenthèse, mais donc c'est normal quand on travaille l'écriture, ça foisonne dans tous les sens, ça parle énormément, ça choque, et sur certains aspects, on reste insatisfait. Parce qu'au début, mais comment est-ce que je mets des morceaux ensemble? Pour l'instant, je ne suis pas en train de le faire, même si je le fais dans une certaine mesure quand même, en suivant l'écriture. Alors, les premiers, je reviens à au filet, donc les premiers vont resplendir comme le soleil, les seconds, dit Jésus, sont jetés dans la fournaise ardente où il y a pleurs et grincements de dents. Ce qui signifie symboliquement que les puissances du mal seront définitivement anéanties. Donc, les deux explications montrent qu'il y a un lien entre la fin du monde et le jugement. Intéressant. Vous pouvez compter le nombre de fois, je dis intéressant pendant le cours. Jésus distingue la fin d'autres choses. Les guerres, les rumeurs. Par là, il est dit qu'il y a bien une fin, de nouveau qui vient, mais que ça ne correspond pas aux guerres ou aux rumeurs de guerre. D'autres évangiles précisent encore, ça ne correspond pas non plus aux tremblements de terre, ou à la peste, la famine, des phénomènes terribles, des persécutions, des trahisons, des signes dans le soleil, les étoiles et la lune, des angoisses et des frayeurs terribles. Ce n'est pas équivalent à la fin. C'est signe qu'on y va. Ce qui est un peu différent. Alors Jésus donne l'heure de la fin en Matthieu. Ce sera lorsque la bonne nouvelle du royaume aura été proclamée dans le monde entier et à la face de toutes les nations. Donc cela on dit beaucoup, en même temps, ça veut dire quoi? C'est qualitativement, quantitativement. Douzième point, la mort de Jésus. Jésus, on a vu, a apparu des miracles. Il a fait des promesses et une espérance énorme qui s'est dégagée. Mais il ne faut pas oublier que Jésus est réellement mort. Par trois fois, les synoptiques disent justement, montrent Jésus qui annonce qu'il va mourir. Et ces trois annonces avec celle de la trahison Judas ne sont pas comprises. Et Jésus montre là qu'il savait pertinemment bien qu'il allait mourir, et plus encore qu'il a choisi d'aller sur la croix. Dans l'institution de l'Eucharistie, Jésus livre son corps. Donc celui qui a le pouvoir de guérir, de ressusciter les morts, choisit de mourir. Il décide d'assumer la mort, et donc de vivre l'acte de mourir dans la confiance à son Père. Et à Gethsémani, il affronte l'angoisse de la souffrance et de la mort. Et à Gethsémani, on voit aussi comment il opère un acte de confiance absolue en Dieu, Père, à la croix, pardon. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ça va assez loin. Tous les évangiles prennent longuement le temps de décrire la passion de Jésus et s'arrêtent sur sa mort, sa mise au tombeau. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu n'esquive pas, à ce moment-là, ce qu'on peut appeler la tragédie de la mort. Au contraire, il choisit de rejoindre l'homme jusque-là, afin justement de transformer la tragédie en drame. Ce qui était fatal ne l'est plus avec Jésus. Donc on parle de drame. Et ce qui est très beau, c'est que Jésus est resté parfaitement uni à Dieu, c'était le problème qu'on avait vu à Genèse, parfaitement uni à Dieu jusque dans la mort, jusqu'à sa mort. La bonne nouvelle, c'est que la mort n'est pas le point final de la vie de Jésus, d'aucun évangile. Chaque évangéliste relate justement la surprise due à cette résurrection. Ainsi, l'absolue remise de soi à Dieu jusque dans le pire qui puisse arriver, la mort, est source de vie en raison de Dieu même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque évangéliste montre bien comment les disciples peinent à croire que Jésus est ressuscité. Ils ont énormément de difficultés à le croire, à croire aux yeux. Mais progressivement, on voit aussi qu'ils parviennent à s'y habituer, à le croire réellement. Du fait de la résurrection de Jésus, l'Ancien Testament acquiert subitement un tout nouveau sens. L'épisode des disciples d'Emmaüs montre que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes parlent de Jésus qui a accompli ses écrits. Ils ont annoncé Jésus, Jésus montre que ça parlait de lui et dit « Cela parler de moi, et c'est lui qui l'explique. Et donc, ce qui était seulement espéré prend un tout nouveau relief, c'est celui de la réalité, puisque Jésus est réellement vivant. La prophétie d'Ézéchiel 37, avec les ossements de séché qu'on avait vus, prend une couleur nouvelle. Souvenez-vous, à l'époque, ils pensaient uniquement que cette prophétie était une métaphore. Mais avec la résurrection de Jésus, en tout cas pour Jésus, on peut lire cette prophétie d'une manière nouvelle, et elle doit être comprise non plus au sens propre, au sens métaphorique, mais au sens propre. Alors, c'est assez amusant, parce que le sens littéral de l'Ancien Testament fait que ce texte-là doit être entendu au sens métaphorique, mais quand on passe à son sens allégorique, il faut entendre le texte au sens propre. Assez drôle. C'est l'inverse. Souvent, on a l'impression que le symbolique va aller vers moins de réalité, et ici, c'est le mouvement complètement inverse par plus de réalité. Donc, cette résurrection du Christ fait que on peut passer d'une timide métaphore à la certitude de la réalité dite par le texte. Donc on va dans le sens d'un plus grand réalisme de la victoire de la vie sur la mort. Il n'y a pas que les passages de l'Ancien Testament, les textes de l'Ancien Testament, qui acquièrent un sens nouveau, aussi ceux du Nouveau Testament. Parce que les guérisons que Jésus a opérées, les résurrections, on devrait dire les réanimations qu'il a faites, peuvent être comprises au sens fort. C'est pas seulement Jésus nous aime bien, ça va beaucoup plus loin. Donc Jésus n'a pas trompé le monde en opérant des guérisons. Parce que ces guérisons avaient suscité une espérance extrêmement forte dans le cœur de ceux qui les avaient vues, eh bien Jésus ne les a pas trompés. Bien sûr, il visait d'abord la foi, mais en même temps, elle visait à annoncer cela. Si Jésus a voulu qu'on ne parle pas des miracles, c'était pas pour qu'on ne croie pas cela, mais plutôt c'est parce qu'il ne voulait pas faire l'impasse de la mort. Il a pris notre mort au sérieux, il a vécu lui-même. Et on voit que c'est vraiment en vivant la confiance absolue en son Père, durant toute sa passion et jusque dans l'acte de mourir même, que Jésus obtient la vie pour lui-même et pour nous. Voilà pour les synoptiques, je m'arrête là. Je passe à l'évangile de Jean. Il possède lui-même aussi une force propre. J'ai bien aimé ce que le cardinal Danès disait, que l'évangile de Jean est un petit peu comme des rayons X. On voit la structure intérieure. Ça fait limite comme explication, mais c'est très parlant et c'est dit quelque chose de très vrai. Alors, trois points, la vie éternelle, le jugement et la résurrection. L'évangile de Jean précise ce que la vie est, son identité, comment elle nous est donnée, 3, le moyen de l'obtenir, et 4, en quoi elle consiste. Premièrement, l'identité de la vie. La vie, c'est ce que le Père a en lui-même et qu'il donne au Fils. Donc, il faut dire que en le Fils se trouve la vie, à un tel point que Jésus dit « Je suis la vie ». Et parce qu'il est cette vie, on peut dire qu'il est lumière des hommes et vérité. Parce que, deuxième point, Jésus a la vie en lui-même, il a, comme le Père, pouvoir de la donner, de la reprendre. Surtout de la donner. Et donc, son désir, dit-il, est qu'on ait cette vie en surabondance. C'est justement de donner la vie éternelle. Et il la communique, c'est le comment ici, en se donnant lui-même. En donnant sa vie pour ses brebis librement sur la croix. C'est ce que saint Jean appelle l'heure du Fils de l'homme. Là, sur la croix, souvenez-vous, Jésus remet l'Esprit et livre l'Esprit Saint, ici on peut dire sans mesure. Cet Esprit reçu devient en celui qui le reçoit une source d'eau jaillissant en vie éternelle. C'est le discours à la Samaritaine. On peut donc dire, puisqu'il se donne, que Jésus est le pain de Dieu qui donne la vie au monde, le pain de vie. Et ce pain, c'est sa chair qu'il donne pour la vie du monde. On voit bien ici la résonance sacramentelle. Pour recevoir cette vie en soi, il nous faut manger sa chair et boire son sang. C'est par là qu'on acquiert cette vie éternelle. Donc, en langage joannique, il s'agit d'œuvrer l'œuvre de Dieu. Si on prend le grec, c'est vraiment ce jeu de mots-là qui est présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut travailler à croire en Jésus. Saint Jean est très précis sur cela. C'est par la foi en le Fils de Dieu, en le Fils de l'homme, donc en celui qui l'a envoyé, qu'on reçoit la vie éternelle. Je vous cite ici Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Alors, vous avez noté peut-être le temps des verbes. Le verbe avoir est l'indicatif présent actif. Et puis, le verbe passer est un indicatif présent passif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus affirme ici que la vie éternelle est déjà donnée à celui qui croit et que le passage de la mort à la vie a déjà eu lieu. On est dérouté. Pourtant, c'est ce qu'il dit. Donc, la vie éternelle est déjà commencée pour celui qui croit. À cela, il faut ajouter que cette foi ne se vit et ne demeure elle-même qu'en pratiquant le commandement du Seigneur, c'est-à-dire qu'en s'aimant les uns les autres comme il nous a aimés. Parce que justement, ce commandement est vie éternelle. Et donc, on peut dire que la vie éternelle, c'est demeurer dans son amour. Quatrième point, en quoi consiste cette vie éternelle? Eh bien, elle consiste en la connaissance du Père et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est chapitre 17. Cela, grâce à l'enseignement de l'Esprit que le Père et le Fils envoient. Donc, c'est être grâce à lui, là où il est, c'est avec lui, c'est-à-dire avec le Père. C'est donc être rempli de l'amour dont le Père a aimé le Fils. Même si Jean ne le dit pas explicitement, et de l'amour dont le Fils aime le Père. Donc, c'est demeurer dans le Père et le Fils, demeurer dans le Père et le Fils, comme le Fils est dans le Père et le Père dans le Fils. C'est avoir donc le Christ en soi comme le Père est dans le Christ. Donc vous voyez bien, surtout dans le chapitre 17, que la vie éternelle a une dimension trinitaire. Ce point n'est pas de peu d'importance. Ça consiste à vivre de la vie même de la Trinité, échange constant entre le Père. En théologie trinitaire, on parle de la circumcession, de ce don. Donc cet être en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cela commence dès que l'on croit et que l'on vit de la charité. Si la croix procure la vie éternelle, c'est, on le voit bien, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est vraiment cette lumière qui illumine le monde, qui du coup démontre les œuvres coupables pour sauver et donner la vie. Vous voyez bien qu'il y a un revers à cela. Le revers de ce salut est justement le jugement auquel la foi en le Fils permet d'échapper. Celui qui croit, dit Jésus, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Jésus l'explique, je cite, « Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alors on peut comprendre trois choses de cela, au moins, certainement plus. Premièrement, le jugement est relatif à la personne du Christ. Pour dire plus précisément à la foi en la personne du Christ. Ça se réalise par rapport à lui. Deuxième chose, le jugement ne s'exerce qu'envers celui qui refuse de croire au Fils de l'homme, c'est-à-dire qui refuse d'être sauvé. Troisièmement, il est d'application jusqu'à la venue du Christ dans la chair. Et il continue de l'être tant ou dès qu'on refuse de croire dans le Fils. Vous voyez ? Donc, c'est comme un cadeau toujours présent. Et le salut, donc, et le jugement, c'est refuser ce cadeau. Et donc, de nouveau, le jugement, c'est ce qui est déjà présent. Souvent, on remet le jugement qu'à la fin, mais en fait, le jugement est déjà là maintenant. Il s'applique dès maintenant. Et donc, c'est le contraire du salut, de la possession et de la vie. Qui refuse de croire ne verra pas la vie, affirme Jean le Baptiste en 3,36. Alors, si le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, il est aussi celui qui a remis le jugement tout entier au Fils. Et c'est au Fils que revient le pouvoir de l'exercer. Et parce que le Fils ne fait rien lui-même, parce qu'il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, eh bien, il juge selon ce qu'il entend du juste jugement. Plus encore, Jésus lui-même ne juge pas, c'est la parole qu'il a fait entendre, qui vient du Père, qui va juger. Vous voyez, ce qui est vraiment magnifique dans saint Jean, c'est que vraiment toujours dans la Trinité, là, dans ce mouvement entre le Père et le Fils qu'il se donne. Et c'est une des richesses, en tout cas pour notre matière, dans l'évangile de Jean. Troisième point, la résurrection. Au don de la vie par la foi, Jésus associe encore la résurrection, dit-il, au dernier jour. Je vous cite la fin du chapitre 6 de Jean. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père. Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ailleurs, Jésus affirme que l'heure du Fils de l'homme est celle, je cite, « où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » L'heure, dans l'évangile de Jean, c'est la mort et la résurrection du Christ. Ce sont donc c'est le moment grâce auquel ceux qui sont déjà morts, à l'instant où Jésus parle, reçoivent la vie. Alors, on a deux affirmations de Jésus qui semblent se contredire. Dans la mesure où Jésus annonce une résurrection au dernier jour, et le don de la vie à l'heure du Fils de l'homme. Comment est-ce qu'on met les deux ensemble? En réalité, il ne faut pas confondre le don de la vie et le fait de la résurrection. Ce que Jésus dit quelques versets plus bas permet de gagner en clarté sur ce point. Il dit « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui ont fait le mal pour une résurrection de jugement. » Il y a le mot « pour » ici, qui est en fait en grec la préposition « eis ». Alors on peut l'entendre, on peut la traduire par « dans », par « pour », Mais si on la met avec un verbe de mouvement, on peut la traduire dans un sens d'inaccompli, de mouvement. Et donc on pourrait dire, dans un sens donc dynamique, on pourrait traduire par vers. Et donc, on pourrait traduire le verset de la manière suivante. Ceux qui auront fait le bien s'en iront vers une résurrection de vie. Ceux qui auront fait le mal vers une résurrection de jugement. Donc, on peut dire de ce fait, si dès l'heure il y a le don de la vie, il y a aussi la promesse d'une résurrection à venir. Donc, nous sommes dans l'ordre du déjà là, de la vie, et du encore à venir. C'est parfois difficile à penser pour nous, parce que quand on pense qu'on est déjà là, on exclut complètement que ça puisse encore venir. Mais si on voit la vérité, c'est souvent comme ça. La croissance d'un homme, un homme est déjà pleinement là, et pourtant il est encore en devenir. Alors, dans ce passage, on peut noter que la résurrection, ce n'est pas seulement le fait de ceux qui vivent déjà maintenant, c'est le fait de tous les hommes. Le chapitre 5 de l'évangile de Jean précise encore quel est l'acteur de cette résurrection. C'est le privilège du Père, mais c'est aussi celui du Fils. Jésus dit bien, « Comme le Père en effet ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. » Ça s'entend dans plusieurs sens, bien sûr. Et dans le discours sur le pain de vie, Jésus ne se contente pas de parler à la troisième personne. Par trois fois, il dit très clairement « Je, le, c'est-à-dire celui qui croit en lui, ressusciterai au dernier jour. » Et vraiment au dernier jour aussi. Donc Jésus annonce cela en parole, il annonce aussi par la résurrection, il faudrait dire la réanimation de Lazare. Avant de terminer, un dernier point peut-être encore souligné, ce n'est pas que Jésus annonce simplement la résurrection, qu'il va ressusciter, il dit lui-même « Je suis la résurrection. » On va être surpris quand même par ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire « Je suis la résurrection » ? On voit bien le verbe « ressusciter ». Mais quand ce verbe est mis sous la forme substantive, qu'est-ce qu'il faut en penser ? En fait, « ressusciter » dit bien toujours le passage de la mort à la vie. Et donc « résurrection », s'il dit « Je suis la résurrection », ça veut dire que Jésus est le passage incessant de la mort à la vie. Donc on comprend bien, du coup, comment la mort n'a absolument aucun pouvoir sur lui. Puisqu'il est en soi, ce passage, constant. On comprend de cette manière quelle force de vie demeure en Jésus et combien la foi en lui et la mendication de sa chair conduisent nécessairement à la résurrection. Donc permettre au Christ de demeurer en nous et demeurer en lui est le gage de cette résurrection. Ce que nous avons déjà et qui est la preuve qu'il y a quelque chose qui vient encore. Quatrième point, jusqu'à ce que je vienne, aussi dans l'évangile de Jean, Jésus dit qu'il viendra. Alors même qu'il est déjà ressuscité, puisque nous sommes au chapitre 21 ici. Il est là et il viendra. Un petit mot sur les actes des apôtres, ça confirme ce que nous avons vu. On ne prend pas tous les actes des apôtres, soit juste quelques passages. Dans le discours de Pierre à Corneille, à Césarée, l'apôtre souligne que Jésus est vivant, il le dit. Donc il assure la réalité charnelle du Christ ressuscité. Et puis il dit qu'il a été établi juge des vivants et des morts. À la fin des actes, Paul affirme qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. au tout début des Actes, les disciples demandent à Jésus quand est-ce qu'il va restaurer le royaume d'Israël. Et Jésus dit, mais il ne vous appartient pas de connaître l'heure. Donc il refuse de donner l'heure, mais il dit bien qu'il y aura une restauration. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de restauration, il y en aura une. La royauté en Israël, c'est-à-dire l'établissement de Dieu comme unique roi d'Israël. Enfin, concernant la parousie du Christ, il y a deux passages qui nous intéressent. Il y a, souvenez-vous, l'intervention des deux hommes vêtus de blanc qui s'adressent aux disciples au tout début. Et il dit ceci, « Celui-même qui a été enlevé, ce même Jésus viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » C'est de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Apparemment, penser le moment inverse de l'ascension. À s'élever et être dérobé par les nuées semble ainsi devoir correspondre à être dévoilé par les nuées et à descendre. Dans le deuxième discours de Pierre, au chapitre 3, il y a aussi un passage étonnant. Donc, c'est juste après la guérison de l'impotent. Pierre explique qu'elle est due à la foi en Christ ressuscité. Donc Pierre dit ceci, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes. » Donc, le Christ que le ciel garde jusqu'au temps de la restauration universelle sera envoyé à nouveau. Et donc, il faut dire, en s'appuyant sur les Actes des Apôtres, qu'il y a un avènement qui se distingue de l'avènement dans la chair et de celui par l'esprit dont il a été question à la Pentecôte. On voit bien ici, dans la lettre même de l'Écriture, trois avènements sont rendus présents. Par les prophètes, affirme Pierre, Dieu a parlé de cet événement analogique, l'ultime. Et donc c'est le premier des apôtres lui-même et l'Écriture par lui qui l'annonce. J'aborde maintenant saint Paul. Alors, comment situer les écrits de saint Paul? Apparemment, c'est ce qui a été écrit en premier. Mais si on regarde la dynamique biblique et la position des livres, plus que la position, qu'est-ce qu'on voit? Les évangiles parlent de la vie du Christ. Ils montrent, font pas que ça, bien sûr, mais ils montrent Jésus. Saint Paul ne montre pas directement Jésus. Il commence déjà à réfléchir sur ce que ça signifie et sur ce que cela a comme implication pour la communauté chrétienne. Et donc on peut dire, avec beaucoup de nuances, que si l'Ancien Testament a le sens littéral, les évangiles sont comme le sens allégorique, et saint Paul davantage topologique. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, à savoir qu'il n'y aurait que l'allégorie dans les évangiles et que la topologie dans l'idée de saint Paul. Non, c'est une question plutôt de valence. On voit bien qu'il y a une question d'intériorisation qui est très présente dans l'Évangile, dans les lettres de saint Paul. Même si c'est aussi présent dans l'Évangile, bien sûr, hein, mais c'est plus directement abordé comme cela. Alors, j'aborde les deux épîtres aux Thessaloniciens. Pourquoi ? D'abord elles, ce n'est pas les premières dans le canon, mais ce sont les premières qui ont été écrites, semble-t-il. Entre 49 et 50, donc très très rapide, après la mort de Jésus, sa résurrection, une quinzaine d'années après. Et ces deux épîtres traitent, entre autres, de la parousie du Christ. C'est intéressant de noter que Jésus en parle après que Jésus soit ressuscité. Et donc, il y a ici un approfondissement de la compréhension de l'avènement du Seigneur. Dans le passage des évangiles, on parlait aussi de parousie. Mais c'était avant la résurrection. Et donc, de quel avènement ça parlait? Est-ce que ça parlait de la résurrection, qui est aussi un nouvel avènement quelque part, de la Pentecôte, ou encore d'autres choses? Et Paul précise cela, en tout cas, il nous permet de préciser les choses. Il dit, il permet de comprendre qu'après la venue dans la chair et la venue sacramentelle du Christ, il y a encore une troisième venue. Je prends la première aux Thessaloniciens, vous avez le texte sur vos feuilles. Un texte ici très important, très explicite aussi, traite de deux sujets, la parousie du Seigneur et la résurrection des morts dans le Seigneur. On peut distinguer deux parties, donc c'est 1 Thessaloniciens 4, 13 à 5, 11, vous voyez c'est assez long quand même. Donc un enseignement plus dogmatique, et puis la deuxième partie est plutôt une exhortation, mais qui n'est pas sans contenu dogmatique non plus. Dans la première partie, donc Paul pose la question, qui semble-t-il était une question des frères, que penser des chrétiens qui sont morts avant que le Christ ne revienne? Nous, on est habitués à la question. Mais à l'époque, c'est tout nouveau. On pensait que ça n'allait pas arriver. Et donc, Paul essaye d'articuler cela avec le salut des chrétiens décédés. S'ils sont morts, est-ce que cela signifie qu'ils ne jouiront pas de la venue du Christ? Et donc, ils ont été chrétiens pour rien. Un peu embêtant. Parce que, plus haut dans l'épître, saint Paul avait dit plusieurs fois que le Christ allait venir. Il avait même dit que cette venue était attendue, espérée dans la sainteté. Alors je vous lis quand même le texte pour une fois. Ça peut être assoufflé. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous, les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'ange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu, après quoi nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. On voit bien ici que Paul distingue deux catégories de personnes, si on peut dire. Les morts avant le retour du Christ et ceux qui sont encore vivants ou qui seront encore vivants lors de sa venue. Et Paul répond à une ignorance des frères et à une inquiétude. C'est assez existentiel en fait. Comment penser ceux qui se sont endormis dans le Christ? Et Paul dit, il y a une espérance. Et donc, il n'y a pas à être désolé comme des non-chrétiens. Il s'agit de ne pas se laisser aller à la tristesse. La raison de cette espérance est évidemment la mort et la résurrection de Jésus. Et pas seulement sa mort et sa résurrection, mais la configuration de chaque chrétien au Christ mort et ressuscité. Donc vous voyez bien, j'ai repris le mot « endormir », hein, il y a un jeu là. La mort des chrétiens, ça c'est un point à noter, est une imitation, mieux une participation à la mort du Christ. Ensuite, puisque Jésus est ressuscité, Dieu emmènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Ici, la force du lien de chaque chrétien avec Jésus est mise en évidence. La configuration se vérifie et dans la mort et dans la résurrection. Et c'est en raison de ce lien que Dieu ne peut les abandonner à la mort. Donc la mort, conclusion de Paul, n'est pas contraire en la foi, en la vie que Dieu donne. À propos des vivants, dont à ce moment-là, Paul pense faire partie. Lui, il pense qu'il va être vivant au moment où le Christ va revenir. Il affirme que ceux qui sont vivants ne vont pas devancer les morts. Le Seigneur descendra au signal du ciel, alors les morts ressusciteront en premier. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce « en premier » C'est une question. Ensuite, les vivants seront réunis à eux et emportés avec eux à la rencontre du Seigneur. Trois points qui découlent de cela. La descente du ciel évoque la montée de Jésus au ciel et lui parallèle. L'ascension disait le passage du visible à l'invisible. Ici, c'est le contraire. C'est le passage de l'invisible au visible. Ensuite, Paul ne parle pas de résurrection que pour ceux qui sont dans le Christ. Troisième point, le but écrit par Paul est d'être avec le Seigneur, c'est-à-dire avec le Christ. Et donc, ici, l'espérance de l'Ancien Testament qui est d'être avec Dieu devient espérance d'être avec le Christ. On peut prendre ensuite la deuxième partie qui traite davantage de l'heure de la parousie et de son attente. Et Paul poursuit en rappelant l'ignorance du jour de la venue du Seigneur et donc, on ne sait pas quand, et il explique comment les vivants doivent vivre en attendant cette venue. Alors vous avez le texte, je ne vous lis pas cette fois-ci, mais je souligne quelques petites choses quand même. Le jour du Seigneur vient comme un voleur en pleine nuit. Jusque-là, ça c'est ce que Jésus avait déjà dit dans les évangiles. Et il n'est pas possible de déterminer le moment de cette venue. Le jour et l'heure sont inconnus. Paco Rabanne s'est trompé. Cela surviendra soudainement au moment où on ne s'y attend pas. Et ce jour est comparé avec un enfantement. L'image est très belle puisque c'est dans la douleur, mais on est certain que c'est la vie qui vient, qui est donnée. Pour ceux qui sont ou seront spirituellement endormis, c'est-à-dire en fait dans les ténèbres, ce jour sera celui de la perdition. Par contre, c'est là la petite note, la petite nuance, pour les frères, ce jour, d'une certaine manière, ne sera pas une surprise. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il vient. Et donc, nous pouvons demeurer dans la foi. Nous pouvons veiller, parce que nous savons que nous devons l'attendre. Donc, nous avons un avantage indéniable. Et par la foi, justement, eh bien, les croyants sont déjà passés des ténèbres à la lumière. Donc, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus rien à craindre. Le chrétien vit déjà de ce qui vient. Et donc, il s'agit tout simplement, et c'est là le point de Paul, de continuer à vivre dans la lumière, en veillant et en étant sobre. C'est-à-dire à vivre de la foi, de l'amour et de l'espérance, qui sont les armes pour veiller. Avant de passer à la deuxième épître, on peut encore noter le verset 10 de ce passage, qui apporte un petit élément nouveau. Paul y précise que, éveillés ou endormis, les chrétiens vivent déjà unis au Christ. Endormis ou éveillés? Éveillés, on a bien compris, mais endormis? On n'a pas encore compris. Et c'est ça qui précise. les morts en Christ vivent unis à lui. Donc, dans la mort. Leur mort, c'est là le point, et c'est là qu'il répond à l'inquiétude de ses frères, n'est pas la fin de leur union au Christ. Celle-ci se poursuit dans la mort même. Et donc Paul offre, c'est beau, il réconforte ses frères d'une double manière. Pour les vivants qui attendent dans la foi le retour du Christ, il n'y a rien à craindre. Deuxième chose, les morts en Christ demeurent unis à lui malgré la mort. Je passe à la deuxième épître aux Thessaloniciens. Elle va dans le même sens, elle approfondit un peu la thématique. Deux passages sont particulièrement significatifs. Au tout début de l'épître, Paul rend grâce à Dieu pour la fermeté des frères dans la persécution. Ah mais tiens, la persécution, c'est un élément nouveau pour le Nouveau Testament en tout cas. Jésus l'avait annoncé, mais ici, c'est ce qu'ils vivent concrètement. Et Paul assure que Dieu leur donnera le repos, je cite, « quand le Seigneur Jésus se révélera du haut du ciel, avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme brûlante. » Donc Paul redit ici sa certitude de la venue du Christ et il précise que ce sera un jour de jugement qui rendra justice aux croyants. Le Seigneur Jésus, je cite ici, qui aura vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux-là seront châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur, de la gloire de sa force. Quand il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. Et vous, vous avez cru notre témoignage. Ainsi en sera-t-il ce jour-là. Donc, il est mis en évidence qu'au jour du jugement, lors de la venue du Seigneur, il y aura deux états. Une perte éternelle, qui est un éloignement de la face du Seigneur. On comprend déjà mieux ce que c'est que la perte éternelle. Et de sa gloire, de sa force. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre, une admiration du Christ. Au début du chapitre 2, Paul poursuit en corrigeant quelques mécompréhensions et des attitudes erronées de ses destinataires, justement à propos de la parousie. Je vous laisse lire le texte pour ne pas trop déborder sur l'heure. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En attendant la parousie, Paul attire l'attention sur l'importance de ne pas penser que le jour du Seigneur est déjà là. Le troisième s'entend ici, bien sûr. Ce temps n'est pas encore venu. Il en profite justement pour avertir d'un autre temps, c'est celui de l'apostasie, de la révélation de l'homme impie, autrement dit du mystère de l'impiété. Tiens, nouvelle donnée, l'Antéchrist ici. En écrivant ce passage, Paul s'appuie profondément sur les livres 11 et 12 du livre de Daniel, de la persécution d'Antiochus Épiphane, qu'on avait vu déjà ensemble. Parce que là-bas, à ce moment-là, il souillait le Saint des Saints. Donc on voit bien, il y a un rapport, et on se dit, mais tiens, il y a une tendance, mais qui est cet Antichrist-là? On devrait bien l'identifier, ce serait commode et facile. Il a pu sembler correspondre à l'impie, mais en réalité, il ne faut pas identifier l'Antéchrist avec une seule figure précise dans l'histoire. Ce qui se révélera, c'est ça l'Antéchrist, c'est le refus de croire, c'est la volonté de prendre la place de Dieu même, et c'est ça l'Antéchrist. Donc il peut prendre plusieurs visages. Et ce passage conduit également à penser que la résurrection des morts n'a pas encore eu lieu. Un verset de la deuxième épître à Timothée permet de confirmer cette idée. À ceux qui affirment qu'elle a déjà eu lieu, Paul est sans appel, je vous le cite, Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu, renversant ainsi la foi de plusieurs. Et si la résurrection n'a pas eu lieu, ça veut dire aussi que le jour du Seigneur n'a pas eu lieu, puisque les deux sont toujours liés chez Paul. Pas toujours, mais enfin, sont souvent liés. Je passe maintenant à l'épître aux Corinthiens. Alors, pourquoi Corinthiens? Parce que il semble que ce seul qui suit soit la plus proche de celle de Thessaloniciens, 3-4 ans après. Et il nous aide à réfléchir sur plusieurs points. Le purgatoire, le jugement, le ciel et la résurrection des morts. Et si je n'ai abordé que les trois premiers, le quatrième sera pour la prochaine fois. Mais avant de prendre chacun de ces points, Paul parle de l'attente de la révélation du Christ qui va affermir les frères jusqu'à la fin. Donc ici, la parousie est comprise comme une révélation du Christ qui vient à la fin. Vous allez au sens étymologique, révélation c'est un dévoilement. Ce qui était caché devient manifeste. Et il dit, celle-ci n'est pas à craindre car le Seigneur affermira les frères jusqu'à ce qu'elle vienne. Là aussi c'est quand même très réconfortant. Le Seigneur lui-même vient affermir. Cette fin est identique avec la révélation du Christ et le jour de notre Seigneur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, avant le développement, Paul affirme que pour les chrétiens, les derniers jours du siècle, des siècles sont advenus. Et donc, il confirme l'idée selon laquelle, avec le Christ, nous sommes déjà dans les derniers temps. Oui. Souvent, l'incompréhension de l'Écriture fait qu'on n'arrive pas à articuler ces trois venues. Nous sommes vraiment déjà dans les derniers temps et pourtant ça ne cesse de venir. Alors je prends le premier point, l'épreuve du feu, donc chapitre 3 aux Corinthiens. Paul, avant le passage que je vous ai mis, répond aux dissensions intérieures à la communauté, où chacun se réclame de quelqu'un d'autre, il dit oui, moi je suis de Paul, d'Apollos, de Képhas, du Christ, bref, on est de partout. Et voilà le passage qui vient un peu après. Je vous lis. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, tel un bon architecte, j'ai posé le fondement, un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. De fondement, en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que si sur ce fondement on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors analysons un petit peu cela. C'est très riche. Donc Paul utilise deux images, celle de la plante et celle de la maison. Il les articule entre elles. En filant la métaphore de la plante, il rappelle tout d'abord que c'est Dieu qui donne les croissances. Celui qui plante ou arrose n'est rien. Grâce à l'image de la construction, il montre que le fondement n'est autre que le Christ. Et donc, il invite chacun à bien regarder avec quoi il construit sur ce fondement. Donc, il y a deux idées. La première, que c'est Dieu qui donne la croissance. Et l'autre, que c'est chacun qui construit. Et donc, Paul invite à faire attention avec quoi on construit. Donc ici, vous vous souvenez de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est-à-dire des matières résistantes, solides et résistantes au feu, ou bien du bois, du foin, de la paille, qui sont tout de suite consumées par le feu. Car, avertit Paul, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de nouveau ? C'est que la manière dont on bâtit, autrement dit la qualité de la construction, va être éprouvée. Et la solidité et la valeur de la construction, c'est-à-dire les œuvres et pas les personnes, les œuvres seront jugées. Et le but de l'intervention de Paul, c'est que l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste. Et dans ce cas, dit-il, eh bien, l'ouvrier recevra une récompense. Il y a un contexte sapientiel dans cette péricope, donc c'est cet ensemble de versets, qui invite à penser que la récompense ici est la joie de voir la fécondité du labeur apostolique. Cette joie, quand est-elle ? Maintenant ? Plus tard ? Les deux ? Paul précise aussi quand va advenir ce jugement. Il dit un jour. Ce sont des précisions qui nous aident souvent beaucoup. Et le feu est ici vu comme ce qui éprouve. Ce n'est pas d'abord décrit comme un état provisoire, ni comme un châtiment. C'est plutôt une sorte de jugement par lequel tous les chrétiens sont jugés et débouchent sur la pâte ou la récompense. Avec l'idée de feu, on a aussi l'idée de purification. Parce que les matériaux peuvent être variés. Le feu, justement, est ce qui permet de trier les métaux. C'est aussi ce qui peut permettre de faire un tri entre ce qui est corruptible et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire entre ce qui a la valeur, si on prend les images choisies, et ce qui n'en a pas. La purification dit, troisième chose aussi, enfin le feu, la purification par le feu, dit une certaine durée. Pas tout de suite que ça se fait. Ce n'est que progressivement que le tout est comme filtré pour ne plus laisser que l'or ou l'argent. Alors, en parlant de la sorte, en fait, Paul n'est pas étranger à la tradition. L'Ancien Testament associe souvent le feu à ce qui élimine les scories, à ce qui purifie. Donc, vous avez les prophètes qui sont sur la page. Et le livre de Malachie, particulièrement, lit le jour du Seigneur avec un feu qui purifie. L'œuvre est détruite, donc, mais la personne est sauvée. Il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Deuxième passage, la révélation des desseins des cœurs. C'est un petit verset assez étonnant, qui vient comme ça comme au détour, à la fin du chapitre 3, au tout début du chapitre 4, donc, Paul poursuit son raisonnement et dit « Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. » Laissez venir le Seigneur, c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifeste les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Donc, un, il s'agit de se garder de juger, car les desseins des cœurs nous échappent. Deux, le Seigneur seul connaît les cœurs et il les rendra manifestes lors de sa venue. Troisième conséquence, troisième point. Eh bien, chacun va pouvoir comprendre le fond des choses. Et du coup, le jugement de Dieu nous apparaîtra profondément juste. Chacun recevra ce qui lui revient dans l'approbation générale. C'est le summum de la démocratie, ça. Parce que justement, la vérité des cœurs sera manifeste. Dernier passage. La fin de l'hymne de la charité, ça vaut quand même la peine de lire car nous voyons à présent dans un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, demeure foi, espérance et charité, ces trois choses, mais la plus grande antenne, c'est la charité. Donc, Paul fait une comparaison ici entre le présent et ce qui sera alors. La vision dans le présent est comme celle d'un miroir en énigme, celle alors sera face à face, autrement dit, sans intermédiaire. Dans le même sens, la connaissance dans le présent est partielle, celle alors sera reconnaissance comme l'on est reconnu par Dieu. Comme étonnant comme formule. La connaissance ou la vision dans le présent n'est pas pleine, elle demeure mystérieuse et fragmentaire. Alors, on connaîtra Dieu comme il nous connaît. Alors, toute la question, évidemment, de savoir comment on entend ce « comme », ce « kathos ». D'entendre « comme », selon que, la mesure de la connaissance humaine est la connaissance de Dieu. Autrement dit, on connaît Dieu par la connaissance qu'il a de nous. Alors, il n'est pas évident que cette expression signifie une identité parfaite entre la connaissance divine et la nôtre. Mais en disant cela, je reconnaîtrai et je connaîtrai comme je fus reconnu, Paul souligne que cette reconnaissance est personnelle, dans de la relation, et ça consonne fort bien avec l'expression face à face. En même temps qu'il souligne la différence entre la vision maintenant et celle alors, Paul marque aussi une continuité, et c'est la charité. Tout passe, la foi, l'espérance, mais la charité demeure. Je vous remercie.